Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg et Tatiana Mosso avec vous depuis Washington. Bienvenue dans cette édition du vendredi 3 juin 2016 à la une ce soir.
Au Gabon, l'opposant Jean Ping a refusé de se rendre à une convocation de la police judiciaire à Libreville.
En Angola, Isabelle Dos Santos, fille du président, a été nommée à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale.
C'est le plus ridicule du népotisme qu'on puisse voir. Nous, on critique beaucoup la façon dont le président Dos Santos partage la richesse du pays avec sa propre famille.
Nous entendrons plus longuement la réaction de Raoul Danda, vice-président de l'UNITA.
En Syrie, la ville d'Alep vit de nouveau aujourd'hui des bombardements extrêmement violents de la part des troupes du régime d'Assad.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Dans l'actualité africaine, au Gabon, l'opposant et candidat à l'élection présidentielle de 2016, Jean Ping, a refusé de se présenter hier à une convocation de la police judiciaire à Libreville. Un important dispositif policier avait été mis en place devant les locaux de la police, où quelques dizaines de partisans s'étaient rendus pour manifester leur soutien. L'État gabonais a annoncé qu'il allait porter plainte contre Jean Ping suite à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux où il disait vouloir se débarrasser des cafards dans la perspective de l'élection présidentielle.
Une ONG basée à Bruxelles, la Fondation pour la démocratie et la gouvernance, dit avoir porté plainte à Paris pour incitation à la haine, comparant cette rhétorique nauséabonde avec celle des génocidaires rwandais au début des années 90. Jean Ping a, lui, dénoncé un grossier montage. La présidentielle, censée se tenir fin août, opposera le président sortant à plusieurs personnalités de l'opposition, comme Jean Ping ou l'ex-président de l'Assemblée nationale Guy Nzumba Ndamba. Au Gabon, la présidentielle est un scrutin à un seul tour et Ali Bongo Ondimba est donné favori face à une opposition divisée.
Le chef historique du mouvement indépendantiste de l'enclave angolaise de Cabinda, Henrique Thiago Nzita, 88 ans, est décédé à Paris où il vivait en exil. L'enclave de Cabinda, coincée entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, produit 60% du pétrole de l'Angola, mais la majorité de ses 400 000 habitants vit dans l'extrême pauvreté. On écoute Raoul Danda, vice-président de l'UNITA, principal parti d'opposition en Angola.
Le Cabinda vient de perdre une des plus importantes personnalités du territoire cabindé. Il a été un icône de la lutte, un symbole de la lutte contre le colonialisme, qu'il a combattu contre la présence coloniale portugaise dans le territoire angolais comme tel. Il s'est battu contre ce qui était la présence militaire du MPLA au Cabinda. Il s'est battu pour une solution qui puisse dignifier le Cabinda. Toute sa vie, il a résisté à la corruption, il a résisté pour la cause qu'il défendait. C'était quelqu'un de très important que le Cabinda vient de perdre.
Raoul Danda, vice-président de l'UNITA à Luanda, en Angola.
11 lycéens burundais ont été incarcérés et inculpés vendredi d'outrage à chef de l'État pour avoir abîmé des photos du président Pierre Nkurunziza, a-t-on appris de sources policières, alors que 3 autres personnes ont été blessées par balle lors de manifestations contre l'arrestation de ses élèves, Eric Manirakiza.
Tout commence au lycée communal d'Omuramvia, où la police arrête 8 élèves accusés de gribouiller l'image du président burundais dans un manuel scolaire. Selon des enseignants joints par VOA Afrique, d'autres élèves ont immédiatement manifesté pour demander leur libération. Des agents des services secrets communément appelés « documentation » ont tiré à balles réelles pour disperser les manifestants. 3 jeunes ont été blessés. Ces arrestations se sont étendues à d'autres lycées de la province. Dans la capitale, plus de 300 collégiens ont été renvoyés vendredi pour les mêmes raisons. Le phénomène se généralise dans plusieurs établissements où les élèves n'hésitent pas à écorner l'image du président, ont révélé des témoins à VOA Afrique. Un psychologue qui a requis l'anonymat dit que la faute incombe aux concepteurs de ce manuel scolaire qui ont voulu faire du président leur héros, ce qui n'est pas le cas pour ces adolescents.
Au Nigeria, le SPDC, la filiale nigériane du groupe Shell, a annoncé une enquête sur une nouvelle attaque à l'explosif sur l'oléoduc Forcados, revendiquée par les vengeurs du delta du Niger sur leur compte Twitter. En février, les NDA,
les vengeurs du delta du Niger,
je voulais le faire en anglais, avaient déjà mené une attaque sophistiquée avec des plongeurs professionnels sur la partie sous-marine de Forcados.
Un sommet de la CDAO se tient aujourd'hui à Dakar. Des ONG de défense des droits humains et des opposants gambiens réclamant des sanctions contre le régime répressif du président Yahya Jammeh en Gambie.
En Algérie, dernier hommage au chef du Polisario, Mohamed Abdelaziz, décédé mardi dernier. Sa dépouille est arrivée aujourd'hui à Tindouf, dans le sud-ouest de l'Algérie. Le successeur de Mohamed Abdelaziz sera désigné lors d'un congrès extraordinaire convoqué dans un délai maximum de 40 jours.
Au moins 117 corps de migrants, dont de nombreuses femmes, ont été retrouvés sur les plages de Zouara, une ville de l'ouest de la Libye. Ils tentaient de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Le Croissant Rouge libyen craint une révision à la hausse de ce bilan.
En Mauritanie, les deux fils de l'ancien président Kouna Ould Aïdala, Sidi Mohamed et Eli Cheikh, ont été condamnés respectivement à 15 ans ferme et 4 ans avec sursis pour trafic de drogue.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité dans le reste du monde, direction les États-Unis, Claire.
Et aux États-Unis, des bagarres ont éclaté jeudi entre pro et anti-Trump en Californie, au moment où le futur candidat républicain tenait un meeting à San José. Les précisions de John Hinden.
Après avoir bloqué un fourgon de police, des centaines de manifestants ont envahi le parking du centre des congrès où se tenait le meeting de Donald Trump. Ils ont insulté ses partisans et attaqué ceux qui quittaient le meeting. Le Los Angeles Times rapporte qu'une dizaine de personnes ont reçu des coups de poing. Les manifestants scandaient « pas de haine dans notre État » et tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Débarrassons-nous de Trump ». La police, présente en nombre, a toutefois permis aux partisans de Trump d'accéder au meeting. Lors de sa précédente venue dans la région en avril dernier, des manifestants avaient aussi empêché l'accès à la salle où se trouvait Trump, l'obligeant à quitter les lieux par la porte arrière. Ces incidents sont devenus récurrents depuis le début de la campagne du milliardaire américain.
La ville d'Alep a de nouveau vécu aujourd'hui un enfer, des raids aériens causant des dizaines de morts quelques heures avant une réunion d'urgence à l'ONU sur les secours aux habitants affamés et assiégés en Syrie a eu lieu. Les précisions de Jacques Aristide.
Dans la deuxième ville du pays, au moins 38 civils ont péri depuis le petit matin dans des frappes du régime sur les quartiers rebelles et leurs environs. Ces bombardements sont les plus forts depuis une dizaine de jours. Leur violence était telle que la prière du vendredi a été annulée dans les secteurs est sous contrôle des rebelles et qui sont totalement assiégés d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Aussi, le fief rebelle de Maria dans la province d'Alep opposait une farouche résistance après une violente attaque menée par le groupe État islamique à la périphérie de cette ville où des munitions ont été larguées par la coalition dirigée par Washington. Cette escalade de la violence intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU devait se réunir ce vendredi à New York pour trouver les moyens de secourir près de 600 000 personnes prises au piège dans 19 zones ou localités encerclées par des belligérants.
La Syrie, toujours en matière au Moyen-Orient, donc la Syrie a autorisé l'acheminement d'aide humanitaire par convoi terrestre dans 12 zones assiégées au cours du mois de juin. C'est ce qu'ont annoncé les Nations Unies vendredi.
Plus de 1000 membres des forces irakiennes ont été blessés depuis le début de l'offensive à Fallujah contre le groupe État islamique. Le commandement militaire de l'opération ne divulgue aucun bilan des victimes. Les forces irakiennes, soutenues par l'allié américain, se heurtent, elles, à la résistance de centaines de djihadistes après être entrés lundi dans la ville aux mains de Daesh depuis janvier 2014.
Au Yémen, au moins 4 civils ont été tués aujourd'hui dans le bombardement par les rebelles chiites houthis d'un marché à Taiz, dans le sud-ouest du pays. Malgré une trêve en vigueur depuis le 11 avril, les combats n'ont jamais cessé dans la province de Taiz où s'affrontent les rebelles accusés de liens avec l'Iran et les forces gouvernementales soutenues par une coalition arabe sous commandement saoudien.
Les premiers résultats de l'enquête pénale visant à identifier l'arme utilisée pour abattre l'avion MH17 en juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine, qui avait fait 298 morts, ainsi que son emplacement exact, seront présentés après l'été, a annoncé vendredi le ministre néerlandais.
Et des centaines de migrants pourraient avoir disparu dans le naufrage vendredi d'un bateau au sud de la Crète où une importante opération de sauvetage se poursuivait, tandis qu'au même moment était annoncée la découverte de 117 corps sur les côtes libyennes. Au prochain... C'est tout pour ce journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Hindon.
En Angola, le chef de l'État José Eduardo dos Santos a nommé sa fille Isabel dos Santos à la tête de la compagnie pétrolière publique Sonangol. 43 ans et mère de 3 enfants, Isabel dos Santos est la femme la plus riche d'Afrique. Son patrimoine est estimé à plus de 3 milliards de dollars. Et selon le magazine Forbes, une importante partie de cette fortune serait placée au Portugal, l'ancienne puissance coloniale de l'Angola. En Afrique du Sud, plusieurs compagnies minières, dont les géants anglo-américains et anglo-gold Ashanti, ont annoncé aujourd'hui leur décision de faire appel d'un jugement autorisant des centaines de milliers de leurs employés atteints de silicose à lancer une action collective en Afrique du Sud. Si l'action collective est menée à bien, elle pourrait concerner jusqu'à 500 000 de personnes et coûter des centaines de millions de dollars aux 32 compagnies concernées par ce recours collectif. L'Afrique du Sud est désormais le pays le plus prospère du continent, c'est ce qui ressort du rapport 2016 publié par le Legadum Institute, un institut de recherche anglais qui dévoile depuis 2016 l'indice de prospérité de près de 142 pays à travers le monde. Sont pris en compte, outre la richesse économique, mais aussi le bien-être de la population des pays. Le Sénégal, le Burkina Faso, le Rwanda ou encore le Ghana figurent dans le top 10 de ce rapport.
Et tout de suite, on retrouve les sports avec Bagassi Koura.
Oui, bonsoir Tatiana.
Bonsoir Bagassi, éliminatoire de la CAN au Gabon 2017.
Oui, on commence par cette victoire de la Tunisie face à Djibouti, 3-0. La Mauritanie reçoit le Cameroun, les Lions Indomptables qui ont eu un excellent match amical il y a quelques jours avec la France, 3-2 pour la France. La Libye affronte le Maroc, demain on aura Burundi, Sénégal, le Rwanda joue contre le Mozambique, Sao Tomé affronte le Cap-Vert et la Guinée-Bissau sera aux prises avec la Zambie. La Tanzanie reçoit l'Égypte et la Namibie le Niger. Le Botswana sera aux prises avec l'Ouganda. La Sierra Leone, elle, joue contre le Soudan. Quant au Soudan du Sud, il recevra le Mali. La Gambie affronte les Bafana Bafana d'Afrique du Sud et les éléphants de Côte d'Ivoire, eux, jouent contre le Gabon.
Et au niveau de la FIFA, de nouvelles révélations sur Sepp Blatter.
Oui, Joseph Blatter a partagé 80 millions de dollars avec ses ex-lieutenants Jérôme Valquet et Marcus Kattner. Ces trois hommes se sont, dans un effort coordonné d'enrichissement personnel à travers contrats et compensations au cours des 5 dernières années, c'est ce qu'a indiqué ce vendredi la FIFA, la Fédération internationale de football basée à Zurich, qui a indiqué aussi avoir livré ces informations à la justice suisse et va les partager avec la justice américaine. Certains contrats contiennent des dispositions qui semblent violer le droit suisse, selon la FIFA.
Et en tennis, Roland-Garros, le classique Djokovic-Murray, c'est ce dimanche à Paris.
Oui, Novak Djokovic et Andy Murray se disputeront le titre dimanche dans la 34e édition d'un grand classique du circuit qu'on n'avait pas encore vu à l'affiche de la finale à Paris. Les numéros 1 et numéro 2 mondiaux ont fait respecter la hiérarchie au dépens du jeune Autrichien Dominique Thiem, dans le cas du Serbe et du tenant du titre, le Suisse Stan Wawrinka, dans celui du Britannica.
Merci beaucoup, Bagassi.
Voilà, je crois qu'on avait aussi...
la NBA, excusez-moi, c'est de ma faute. NBA, exactement, démarré hier soir.
Oui, et les Golden State ont assommé Cleveland de LeBron James 104-89. Grâce notamment à ses remplaçants remontés et sans complexe. Pour la 6e finale NBA consécutive, King James s'est préparé à tout, mais sans doute à un tel scénario.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Claire Morin-Gibourg et Tatiana Mosso. Si vous venez à peine de nous rejoindre, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Place au dossier du jour, Claire.
Et nous partons au Mali, qui traverse des moments difficiles avec la multiplication des attaques terroristes et djihadistes contre les militaires maliens, la force Barkhane et les casques bleus de la MINUSMA. Durant le seul mois de mai, il y a eu environ une trentaine de soldats qui ont perdu la vie. 12 sont des casques bleus. Ce qui est souvent mis en exergue pour le Mali, c'est la recrudescence de l'insécurité, le non-avancement de l'accord de paix et la réconciliation au Mali. Ces différentes préoccupations étaient au centre de la conférence de presse du patron de la MINUSMA. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La recrudescence de la violence au Mali n'est plus un secret pour personne. Pour le patron de la MINUSMA, aucune force n'est à l'abri des attaques terroristes au Mali. Mamad Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali.
Si ce n'est pas des personnels de la MINUSMA, c'est des gens de Barkhane. Si ce n'est pas de Barkhane, c'est des Maliens, qu'ils soient des FAMA ou qu'ils soient des civils. On a ce constat. Que faut-il faire? Moi, j'estime que nous-mêmes, au niveau de la MINUSMA, nous devrons faire notre autocritique, qu'il y a un certain nombre de choses à notre disposition que nous aurions dû mieux exploiter pour qu'on soit plus proactif, pour qu'on soit plus dissuasif. Et dans un tel environnement, il faut qu'on montre ce dont on est capable.
Pendant le seul mois de mai, une douzaine de casques bleus ont été tués au Mali, dont un du contingent chinois basé à Gao. Tout cela est possible grâce à des complicités.
Nous vivons dans un environnement hostile où les ennemis de la paix ou ce qu'on appelle les terroristes, et je dirais encore plus, et leurs complices. Parce que ce ne sont pas seulement les terroristes qui se pavanent sur les routes, qui mettent des mines, ils ont sûrement des complices. Donc j'ai dit, le constat est qu'aujourd'hui, il y a une montée en puissance de ces terroristes. Et comme vous le dites si bien, nous constatons qu'ils descendent de plus en plus vers le sud.
Selon le numéro 1 de la MINUSMA, l'insécurité actuelle au Mali est la conséquence directe de la non-application de l'accord pour la paix et la réconciliation.
On a fêté un an de la signature de cet accord. Quand on discute avec les principaux signataires et donc les principaux chargés de sa mise en œuvre, ni le gouvernement n'est content, moins encore les mouvements, la responsabilité. Mais aujourd'hui, on n'est plus au moment où il faut se jeter les responsables. On est devant un constat, c'est que l'accord de paix n'avance pas. Et de l'autre côté, les ennemis de la paix, évidemment, prennent plus de la place et moi, j'estime que cette situation doit nous interpeller.
Le mandat de la MINUSMA ne lui permet pas de s'attaquer à des gens. Mais les soldats de la paix ne vont plus s'asseoir et croiser les bras.
Et si on constate qu'il y a quelqu'un qui est suspect, nous avons le droit de l'interroger. Nous avons le droit. Et s'il nous s'attaque à nous, on a le droit de se défendre. Mais en respectant toujours un certain nombre de principes. Pas de brutalité, mais nous ne devrons pas tout simplement rester les bras croisés et attendre faire de nous ce qu'on veut. Non. En plus de cela, il y a quand même des règles d'engagement qui ne sont pas qui ne doivent pas être dans la rue, mais dont on sont détenteurs tous nos chefs d'opération sur le terrain.
Les différents sujets de préoccupation de la MINUSMA seront abordés le 29 juin prochain à New York lors des débats sur le renouvellement de son mandat. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Direction le Burundi à présent, où des milliers de militaires et policiers burundais qui étaient dans des missions de maintien de la paix à travers le monde sont revenus dans leur pays. Certains sont infirmes, d'autres sont blessés et la plupart se plaignent de n'avoir pas reçu leur solde depuis leur retour au pays, même si le gouvernement assure que tout est mis en œuvre pour les aider. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Kurunziza.
Tout près de l'aéroport international de Bujumbura, où se trouvait jadis le camp des militaires népalais après les négociations d'Arusha, plus d'une centaine de militaires burundais infirmes ou blessés vivent dans le même camp. Certains sont venus de la Somalie, où 5000 militaires burundais sont en mission de maintien de la paix. Ils attendent que leur situation soit tirée au clair. Les rares militaires qui ont voulu nous donner une interview se sont déplacés du camp pour nous rencontrer. Les militaires hutus proviennent des partis et mouvements politiques armés avant leur fusion avec les ex-forces armées burundaises Tutsi pour devenir la force de défense nationale actuelle qui est mixte. Ce militaire a été blessé en avril 2013 en Somalie. Il porte une prothèse mais n'a jamais perçu sa solde. Témoignage.
Nous sommes endettés, étant sûrs de payer. D'autres vivent encore dans des maisons, d'autrui étant convaincus qu'une fois l'argent arrivé, nous pouvons acheter nos propres maisons. Mais jusqu'à cette minute où on se parle, nous n'avons jamais reçu de réponse concrète, de sources sûres. Une fois les points donnés par l'Union africaine, l'argent entre directement dans nos comptes.
Le porte-parole de l'armée, colonel Gaspard Baratouza, reconnaît que de temps à autre, il y a un retard dû à l'administration de l'Union africaine et ses partenaires.
Il y a un groupe, collège de médecins de l'Union africaine, qui se rend dans les pays contributeurs de troupes. Si quelqu'un est guéri, il peut avoir zéro. S'il est infirme, il peut avoir un jusqu'à 100%. Par exemple, la coupure d'une jambe ou d'un bras, les yeux, ils vont rapporter à l'Union africaine ce qu'ils ont vu. Ça prend du temps à partir des partenaires. Ça peut tarder.
Le ministre des Relations extérieures de la coopération, Alain Aimé Nyamitwe, indique que le mémorandum d'entente signé avec l'Union européenne doit être respecté et reconnaît toutefois les efforts déployés par l'Union africaine.
Une série de questions reste effectivement en suspens. Nous avons contacté l'Union africaine depuis déjà plus d'un an, en tout cas, pour que ces questions soient réglées. C'est vrai que certaines ont été réglées dans l'entretemps, mais d'autres sont en cours d'analyse et consigne ça dans un rapport. Mais ces rapports ne sont pas toujours acheminés dans le temps. C'est toute la question du MOU, mémorandum d'entente avec l'Union africaine. C'est exactement ce que nous disons.
Même si le porte-parole de l'armée minimise le nombre de militaires burundais tués par les El-Shabaab en Somalie, de nombreuses sources confirment que des centaines de militaires de l'AMISOM sont tombés sur le champ de bataille, surtout dans la capitale Mogadiscio, depuis le début de la mission de cette force africaine de maintien de la paix en 2007. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Angola, le président José Eduardo dos Santos a nommé sa fille, Isabelle dos Santos, à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. Isabelle dos Santos, 43 ans, surnommée la princesse, est déjà la femme la plus riche du continent, avec un patrimoine estimé à plus de 3 milliards de dollars. Pour une réaction à cette toute dernière nomination familiale, Idriss Fall a joint à Luanda le vice-président de l'UNITA, le principal parti d'opposition angolais, Raoul Danda.
C'est la preuve une fois de plus que nous vivons dans un drôle de pays, le plus ridicule du népotisme qu'on puisse voir. Nous, on critique beaucoup la façon dont le président dos Santos partage la richesse du pays avec sa propre famille. Et voilà un exemple de plus. Désigner sa propre fille pour s'occuper de la compagnie la plus importante du pays, la Sonangol. Tout le monde le critique. Ici, en Angola, il n'y a pas seulement l'opposition, le citoyen commun qui en critique, mais même dans le rang de son propre parti, les gens critiquent ses comportements du président dos Santos. Il a déjà mis son fils à la tête du fonds souverain. Le fonds souverain, c'est celui qui contrôle une grande partie de l'argent de ce pays. Il y a son neveu qui est ministre de Finances. Il y a déjà son neveu qui est le vice-président de la République. L'homme qui était à son Angol, c'était le cousin à son épouse. Et maintenant, il met sa propre fille là-bas. Ce qu'on peut dire vraiment, c'est un drôle de pays que nous vivons aujourd'hui.
Est-ce que tout ceci entre dans une préparation pour sa propre succession ou bien?
Peut-être que serait-il en train de préparer sa succession, mais il le fait de la façon la plus triste, la plus médiocre possible. Dans un pays démocratique, il ne fallait pas qu'il ait de succession à la tête du pays parce qu'on n'est pas dans une monarchie, on est dans une république. Il faut qu'il ait des élections pour que ces élections puissent déterminer qui sera le prochain président.
Mais le problème en Angola, l'élection du président ne se fait pas au suffrage direct, c'est plutôt indirect par l'élection
absolument
des députés.
Très malheureusement, parce que la constitution qui a été produite par lui-même, le président de la République, indique qu'il n'y a pas d'élection présidentielle. Donc il faut qu'il ait quelqu'un, le premier de la liste du parti politique, remportant les élections, peu importe par quel nombre de voix. Donc, une manœuvre quelconque qu'il puisse faire pour faire en sorte que sa fille puisse devenir le prochain président de la République. Mais dans sa tête, ils veulent que soit son fils, soit sa fille devienne le prochain président. Bon, c'est quelque chose qui s'avère une probabilité. Mais voyons voir à quelle mesure cela peut se concrétiser.
Raoul Danda, vice-président de l'UNITA, le principal parti d'opposition angolais.
Parlons maintenant des conséquences de la consommation du smartphone sur l'attention des étudiants pour cerner les phénomènes d'inclusion et d'exclusion à l'école. Au Burkina Faso, par exemple, les élèves refusent de se retrouver sans leur téléphone mobile en cours, et ce, malgré l'interdiction des autorités, ce qui a un impact sur leurs résultats scolaires, et sans compter qu'ils s'en servent également pour tricher. Boro Lambert, un professeur d'histoire, joint par Eric Manirakiza à Ouagadougou, témoigne.
Beaucoup sont accrochés à leur téléphone. Ah bon, il y en a même qui ne viennent pas en classe parce qu'ils peuvent aborder le cours que vous abordez là à partir de leur smartphone, comme ils ont la connexion Internet. Donc beaucoup ne viennent même pas en classe. Ça, c'est de un. Et à partir même des smartphones là, quand vous faites le cours, ils sont en train de naviguer. Ils naviguent, ils cherchent des informations. Et même avec les smartphones aussi, ils trichent en classe. Ils n'apprennent pas leurs leçons. Les cours qui sont dans les cahiers, ils les photographient à partir de leur smartphone.
Et au niveau de vos élèves, si vous essayez d'analyser les statistiques, le niveau a baissé à quel pourcentage?
On va dire que le niveau a vraiment baissé plus, n'est-ce pas, de la moitié. Parce que quand on prend les années antérieures et puis aujourd'hui, bon, c'est vrai, c'est la conjugaison de plusieurs effets. Hein. Les problèmes politiques, les années, à tout moment, c'est des grèves intempestives. Bon, tout ça aussi, ça contribue, n'est-ce pas, à baisser le niveau, quoi. On peut dire de plus de la moitié, parce que vous avez des élèves aujourd'hui de la classe de terminale qui doivent faire le baccalauréat. Mais quand vous regardez leur niveau, leur expression, les écrits, il y a réellement des problèmes.
Oui, donc il y a d'autres facteurs, mais le smartphone, c'est un facteur important, justement. Et quand ils font ça pendant des cours, vous, personnellement, quel est le comportement que vous adoptez vis-à-vis de vos élèves qui ne veulent pas vous suivre et qui restent accrochés à leur mobile?
Bon, dans chaque établissement, il y a tout un règlement intérieur qui dit que l'utilisation des téléphones portables et l'utilisation est strictement interdite, n'est-ce pas, lors des cours et même des devoirs ou des examens. Et donc, quand ils ne le font pas, qu'ils allument, ils utilisent leur téléphone en plein cours, ce qu'on fait là, on retire carrément le smartphone et on remet le téléphone à l'administration.
Est-ce que ce sont des mesures qui portent de fruits? Ce sont des mesures qui ont été prises tardivement?
Oui, bon, ces mesures-là, hein, on les fait comme ça, bon, on ne peut pas dire que ça porte à 100% nos espérances escomptées, parce que vous arrachez un téléphone aujourd'hui, demain l'élève il vient avec un téléphone, vous arrachez un autre téléphone, ce sont les parents même qui viennent se plaindre pour que vous remettez le téléphone. Donc, vraiment, avec ça, le problème, il demeure toujours, parce qu'il y a vraiment de la résistance. Les gens sont vraiment accrochés à leur téléphone.
C'était le professeur Boro Lambert à Ouagadougou. Et pour plus de détails sur les conséquences de la dépendance au smartphone, écoutez Carrefour Sciences et Santé, c'est ce week-end et la semaine prochaine.
Salut les amis, ici votre gars Roger Muntou en direct de Bamako au Mali. Les amis, je suis en train de faire des émissions en direct, en live. N'hésitez pas, appelez-nous au 001 202 619 3140. Envoyez-nous vos SMS au 001 703 350 37 31. RM Show en direct de Bamako au Mali. Cette semaine, on est ensemble. Suivez-nous aussi en direct, en live sur notre page Facebook VOA Afrique. Ah oui, ça chauffe et ça cartonne ici, VOA Afrique, en direct de Bamako au Mali avec votre gars Roger Muntou de RM Show. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. Merci Lionel Gaïma qui a assuré la mise en onde et à la console Sidrac Franklin. Présentation Claire Morin-Gibour et Tatiana Mosso.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à nos plus d'un million de fans sur Facebook. On maintient la conversation et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.